Des femmes.
Des hommes.
Des droits.
Une chronique de la Ligue des droits de l'homme de l'Ain. Bonjour à amis auditeurs, bienvenue pour cette nouvelle chronique. Ce jeudi 20 avril avait lieu, à Bourg-en-Bresse, une journée consacrée à la féminisation des plaques Victor et Hélène Bache et Louise et Paul Pioda. Journée organisée par la mairie de Bourg-en-Bresse en présence de Jean-François Desbats, de la conseillère déléguée aux droits humains Alexia Cortinovis et par la venue exceptionnelle de Patrick Baudouin, président de la Ligue des droits de l'homme. Mais nous allons commencer cette émission avec Suzanne Renoulia, militante de la Ligue des droits de l'homme, pour beaucoup dans la tenue de cette journée.
Vous écoutez Radio B,
la chronique de la Ligue des droits de l'homme de Bourg-en-Bresse.
Suzanne, vous êtes à l'origine de cette journée de féminisation des plaques, notamment de la plaque Hélène et Victor Bache. Racontez-moi.
Oui, je ne connaissais pas à Grenoble de rue Victor Bache.
Parce que vous venez de Grenoble alors.
Oui. Et quand j'ai voulu me renseigner sur Victor Bache, j'ai appris qu'il avait été assassiné comment ça s'appelle ?
Il a été assassiné, donc, à Néron.
À Néron, avec son épouse. Et j'ai été très choquée que le prénom de son épouse, Hélène, n'apparaisse pas sur le nom de la rue Victor Bache. Et à partir de là, j'ai signalé ce problème à la Ligue des droits de l'homme, qui l'a répercuté du côté de la mairie. Et c'est pour ça donné une belle journée pour l'inauguration de la plaque Victor et Hélène Bache.
Donc, inauguration de deux rues féminisées. Et à la base, vous, Suzanne Renoulia, membre de la Ligue des droits de l'homme, et bien acharnée donc sur un sujet sur lequel vous n'avez pas démordu.
Non, il me tenait vraiment à cœur. C'est peut-être un petit côté féministe, mais quand même, c'est surtout un souci de justice.
Eh bien, Suzanne, merci pour cette initiative qui a donné lieu à une grande journée.
Vous écoutez Radio B, la chronique de la Ligue des droits de l'homme de Bourg-en-Bresse.
Parole est donnée maintenant à Alexa Cordinovis, conseillère déléguée aux droits humains de la mairie de Bourg-en-Bresse, qui va nous parler de droits des femmes. Bonjour Alexa Cordinovis.
Bonjour.
Cette journée de féminisation des plaques, Hélène et Victor Bache, Louise et Paul Pioda, revêt une importance particulière.
Elle revêt une importance particulière puisqu'elle permet de rendre à Louise Pioda et Hélène Bache toute la visibilité qu'elles méritaient. C'est-à-dire qu'elles ont été des femmes résistantes, elles n'étaient pas que des épouses et des sœurs, elles ont fait leur part face à l'ennemi. Donc il était vraiment important aujourd'hui qu'on les célèbre et qu'on les honore pour ce qu'elles ont fait.
Pourquoi était-il important qu'on les honore ? Expliquez-moi.
Parce que les femmes ont joué un rôle important,
oui.
Et elles ont... On l'a pas, c'est assez tardif en fait. On a reconnu leur rôle, oui. Et leur part dans la résistance très tardivement. Elles ont été seulement 10% à avoir une médaille de la résistance. Il a fallu attendre 1975 pour qu'on puisse dire que les femmes avaient fait leur part et qu'elles étaient à l'égal de l'homme de leur engagement. Donc c'était vraiment important qu'aujourd'hui on les mette en valeur et on les fasse sortir de l'invisibilité. Comme c'est le cas encore aujourd'hui, malheureusement, le rôle des femmes est toujours un peu minimisé. Mais voilà. Mais du coup c'était vraiment important pour ça.
La moitié de l'humanité est représentée, comme l'a dit le maire.
Exactement.
La moitié ignorée sous longtemps de l'humanité.
C'est ça. Alors qu'elles ont pris leur part. Ouais. D'engagement à l'égal de l'homme. Donc c'est important de leur rendre l'égalité.
Dans votre discours, Alexa, vous avez fait référence à d'autres femmes aujourd'hui engagées dans des combats en faisant le lien avec cette période de l'histoire.
Bien sûr, puisqu'il serait extrêmement difficile de parler de l'engagement des femmes d'hier sans parler aujourd'hui des femmes résistantes d'aujourd'hui. Quand on voit qu'aujourd'hui des femmes sont tuées parce qu'elles enlèvent leur voile, parce qu'il y a des femmes qui sont sous les bombes aujourd'hui, on est obligé de... On ne peut pas parler de la résistance, on ne peut pas parler des femmes d'avant sans parler des femmes d'aujourd'hui, c'est pas possible.
Alors ces femmes d'aujourd'hui, là, vous avez cité donc des pays dans lesquels donc la situation est critique.
J'ai parlé de l'Iran, j'ai parlé de l'Afghanistan, j'ai parlé de l'Ukraine, de l'Inde, de la Turquie, mais oui, c'est important de de le redire aujourd'hui.
Et croyez-vous que pour les femmes en France, c'est gagné ?
Absolument pas. Alors, il y a des avancées, hein, on va être très très clair, mais on a encore du boulot. Voilà, qu'on a encore du boulot. Je voudrais pas rentrer dans un discours très très politique, je voudrais pas me mettre... Voilà, je suis une femme politique de gauche, je suis engagée, je suis femme de rassemblement. Je crois en rassemblement, mais quand on applaudit un député qui vient d'être condamné pour des violences conjugales, ça me dérange. Donc il y a encore du boulot.
Très bien, Alexa, je vous remercie.
Merci à vous.
Vous écoutez Radio B,
la chronique de la Ligue des droits de l'homme de Bourg-en-Bresse.
Écoutons maintenant Patrick Baudouin, venu exceptionnellement à Bourg-en-Bresse. On va parler droits des femmes, bien entendu, et d'autres sujets actuellement sous le feu de l'actualité. Bonjour Patrick Baudouin.
Bonjour.
Patrick Baudouin, je suis très ravi de vous avoir avec moi aujourd'hui. Pourquoi êtes-vous venu à Bourg-en-Bresse pour l'inauguration de deux noms de rue en hommage aux femmes résistantes, Louise Pioda et Hélène Bache?
Parce qu'il paraît extrêmement important et d'actualité d'honorer aussi les femmes, ce qui n'a pas été suffisamment fait dans le passé. On voit très bien dans nos noms de rues, d'avenues, que ce sont généralement des hommes hein, qui donnent la dénomination. Donc je crois que c'est très très salutaire, d'autant plus que là on est en présence de deux femmes exceptionnelles. L'une qui a été une grande résistante, Louise Pioda, et puis Hélène Bache, bien sûr, épouse de Victor Bache, dont elle a partagé tous les combats pendant leur vie commune, qui a duré rien moins qu'une soixantaine d'années, et qui a été, en même temps que son mari, exécutée par la milice, la Gestapo, le 10 janvier 1944. Donc ils sont inséparables, Victor et Hélène. Elles sont inséparables. Donc je trouve extrêmement important que l'actuel président de la Ligue des droits de l'homme que je suis vienne ici à Bourg-en-Bresse honorer Victor et Hélène Bache et puis aussi bien sûr Louise Pioda.
J'ai senti une émotion particulière quand on a dévoilé la plaque Hélène et Victor Bache et qu'on a fait retentir le chant des partisans.
Oui, c'est une émotion particulière parce que Victor Bache symbolise beaucoup de toute l'histoire de la Ligue, de tous ses combats, les combats pour la justice, pour les libertés, pour les droits de tous et toutes dans un cadre universaliste et à une période de l'histoire qui a été évidemment extrêmement... difficile. Donc cette émotion que j'ai ressentie, c'est le fait que ben, quelque part je lui succède après d'autres et que j'ai conscience du poids, de la charge, de l'honneur aussi que cela représente. D'autant plus que, je l'ai dit, il n'y a eu que trois présidents de la Ligue des droits de l'homme qui ont été également présidents de la Fédération internationale des droits de l'homme, dont fait partie bien sûr la LDH, c'est-à-dire Victor Bache, Daniel Meyer et moi-même. Et puis le chant des partisans, alors qu'on parle de Victor Bache exécuté par la milice et qui a été tellement maltraité pendant la période d'occupation, c'est vraiment une émotion forte. Oui, c'est tellement d'actualité en plus. Oui, c'est tellement d'actualité. Aujourd'hui, alors que nos libertés sont à nouveau menacées dans des conditions qui ne sont pas encore celles, fort heureusement, hein, bien sûr, du régime de Vichy, mais on voit très bien une série de dérives pour nos libertés, avec des lois de plus en plus sécuritaires, avec des lois qui portent atteinte à la liberté d'association, comme la loi dite pour le respect des principes républicains, ou dite encore séparatisme. Et puis, ce que nous vivons en ce moment, des violations policières qui portent atteinte au droit de manifester. Alors,
quelles ont été, on parle des méga-bassines, bien sûr, et de votre action d'observateur. Quels ont été les manquements aux droits de l'homme qui ont été constatés là-bas, à Sainte-Soline?
Oui, si on prend l'exemple de Sainte-Soline avec cette manifestation contre les méga-bassines, je crois qu'elle est très révélatrice. Bon, elle a été exagérément développé, notamment dans des médias qui en ont fait leur chou gras, je dirais. Mais il est vrai que c'est révélateur de beaucoup de choses. Premièrement, je rappellerai quand même, pour que ce soit bien clair, que la Ligue des droits de l'homme condamne de manière absolue le recours à la violence qui a été celui du début de la manifestation contre les forces de l'ordre. Et c'est très très clair, on n'est évidemment pas, contrairement à un amalgame qu'on a voulu faire à notre encontre, pour le port d'armes par des manifestants et pas davantage pour la projection de projectiles dangereux contre les forces de l'ordre. Mais ceci étant dit, on ne peut pas mettre sur le même pied les violences contre les forces de l'ordre et les violences utilisées par les forces de l'ordre. Pourquoi ? Parce que l'État est responsable du service, si on peut dire, du maintien de l'ordre, qui doit être un service, évidemment, au profit des citoyens. La police, elle est là pour protéger et pas pour, pour mettre en danger. Et à ce titre, les manifestants qui étaient à Sainte-Soline étaient pour l'essentiel des manifestants non violents. Or, les forces de police, de gendarmerie en l'espèce, ont utilisé des moyens à l'encontre des manifestants ou des manifestantes extrêmement dangereux. Je vise notamment les quads, ces motos utilisées qui, au lieu d'être utiles pour apaiser les tensions, les enveniment. Et puis, bien sûr, le recours à ce qu'on appelle des armes de guerre, c'est dénommé comme tel dans la catégorisation, c'est-à-dire les LBD, les lanceurs de balles de défense, qui ont blessé beaucoup de personnes, notamment au moment de la crise des gilets jaunes, et puis les grenades de type GM2L, qui sont des grenades dites de désencerclement, mais qui ont pour effet non seulement d'avoir un effet assourdissant et aveuglant à travers les gaz lacrymogènes qui s'en dégagent, mais aussi de pouvoir blesser puisqu'il y a des projections d'éclats qui peuvent aller sur les corps et qui peuvent blesser grièvement. Donc on l'a dénoncé. On a de la même manière, puisque nous avions une équipe d'observateurs, comme nous le faisons pour beaucoup de manifestations depuis des années, nous avons également dénoncé le retard, qui a été apporté pour secourir un manifestant très gravement blessé entre la vie et la mort. Et nous avons un audio d'enregistrement qui démontre qu'effectivement il y a eu ce retard dans des conditions qui paraissent pour le moins discutables, puisque nous avons avisé l'observateur qui était présent, a avisé le SAMU, et dans le cadre des échanges téléphoniques avec le SAMU, il est démontré qu'il y a eu interdiction faite au SAMU d'accéder rapidement à ce manifestant blessé de la part du commandement de gendarmerie qui régissait la zone. Alors que la preuve est également rapportée, il y a d'ailleurs une excellente émission de complément d'enquête qui le confirme, que cette zone était accessible sans difficulté. Et il y a eu un retard de 30 minutes qui s'avère catastrophique pour l'état de santé de cette personne dénommée Serge, qui est toujours dans le coma et toujours, semble-t-il, en danger pour sa vie.
Donc vous avez documenté de façon très précise les violences policières qui ont été faites. Et comment expliquez-vous que vous soyez la cible des critiques de deux ministres actuellement de la République et avec un usage des mots particulier ?
Je pense que nous sommes une cible qu'a privilégié M. Darmanin et hélas après lui Mme Borne, parce que nous dérangeons beaucoup le pouvoir. C'est d'ailleurs notre rôle, puisque nous sommes, comme toute association, un contre-pouvoir. Et que on a visé, je crois, très juste et sans doute fait très mal en dénonçant les violences policières déjà lors des manifestations qui ont suivi l'adoption par le 49-3 de la loi sur les retraites le 16 mars 2023 et ensuite à Sainte-Soline. Et on a d'autant plus fait mal que M. Darmanin, lorsque nous avons publié un communiqué pour dénoncer le retard apporté au secours pour ce manifestant blessé, a traité la Ligue de menteuse. Il nous a dit que c'est une contre-vérité. Et le lendemain, nous avons produit l'audio qui démontre que nous étions bien dans la vérité. Donc M. Darmanin s'est trouvé en difficulté et il a sans doute jugé à ce moment-là que la meilleure défense, c'était une attaque virulente, et d'où cette cible que nous sommes devenus. Alors, il faut dire que ce n'est pas tout à fait nouveau. Il y a quand même une tendance depuis plusieurs mois, et en particulier depuis les dernières élections présidentielles et parlementaires, de la part de la droite et de l'extrême droite, à charger les associations de défense des droits de l'homme et des libertés. Et la Ligue, évidemment, symbolise cette défense des droits et libertés qui gêne le pouvoir, qui s'est donc empressé d'essayer de nous discréditer par des amalgames et ce qu'on peut appeler des fake news, mais c'est la mode actuellement, hein, c'est malheureusement un peu l'époque. Nous avons réponse à tout.
Y a-t-il une perte de la vérité ?
Oui, je crois qu'on peut le dire. Alors c'est de façon générale d'ailleurs, hein. Il y a quand même un souci avec la vérité aujourd'hui. On le voit aussi dans les débats parlementaires, qui sont parfois affligeants, je dirais de tous bords, en tout cas aussi bien du côté de ce qu'on va appeler la gauche, l'extrême gauche ou l'extrême droite, et même les partis. Il y a un discours qui devient d'ailleurs inaudible pour les citoyens et les citoyennes, parce que ce n'est plus qu'injures, ce n'est plus des échanges d'arguments. Qu'on ait des positions divergentes. La Ligue, c'est quoi la Ligue des droits de l'homme ? La Ligue des droits de l'homme, c'est le respect des grands principes et c'est le combat pour les grands principes. C'est la liberté, c'est l'égalité, c'est la fraternité. Et au-delà de ça, c'est forcément la tolérance. Et la tolérance, ben, ça implique qu'on puisse discuter, qu'on puisse échanger, qu'on puisse être dans un contradictoire qui ne soit pas toujours dans un combat de mots pour empêcher l'autre de s'exprimer ou pour discréditer ses propos. Et aujourd'hui, on est malheureusement dans cette logique que le pouvoir favorise et même entretient. Et je vise quand même particulièrement M. Darmanin, qui a l'art, dans ses interventions, de fracturer toujours plus la société française, d'être donc dans une escalade des mots et également des actes, à un moment où il faudrait cesser cet engrenage et être dans une désescalade pour essayer de venir à rassembler ou tout au moins à échanger d'une façon pacifiée.
Merci Patrick Baudouin. Simplement, dans ce contexte particulier, quel est votre espoir aujourd'hui pour terminer ?
L'espoir, ce qui, d'un côté, si vous voulez, il y a de l'inquiétude, bien sûr, parce que la Ligue est quand même très violemment attaquée, et pas seulement la Ligue. Derrière nous, c'est tout le milieu associatif qui ne plaît pas au pouvoir, qui est en train d'être attaqué. Donc avec des moyens dont dispose le pouvoir qui sont bien supérieurs aux nôtres, y compris des moyens médiatiques avec un contrôle de beaucoup de médias par les puissances d'argent qui évidemment favorisent, on va dire, l'ordre établi. Mais d'un autre côté, il y a une vraie source d'enthousiasme et d'optimisme dans le fait que les attaques qui ont été portées contre la Ligue ont suscité beaucoup de solidarité autour de la Ligue, beaucoup d'adhésion, des dons, des soutiens, et je crois que ça motive beaucoup de personnes, et parmi les jeunes, et ça c'est formidable parce que les jeunes ont tendance non pas à être dépolitisés, contrairement à ce qu'on dit, mais à s'investir pour des causes déterminées, et là la jeunesse prend conscience que le combat doit être plus large et qu'il doit porter sur la défense de tous les droits, toutes les libertés, y compris dans le domaine, bien sûr, social, économique, politique.
Merci beaucoup, Patrick Baudouin, et merci pour tout, pour cette journée.
Vous écoutez Radio B,
la chronique de la Ligue des droits de l'homme de Bourg-en-Bresse.
Grand merci à nos intervenants sur l'antenne, Suzanne Renoulia, Alexia Cortinovis et le président de la Ligue des droits de l'homme, Patrick Baudouin. Quant à moi, je vous dis à bientôt, amis auditeurs, pour une nouvelle émission.